France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. C'est un temps où les Français n'aimaient pas la France. Les mots d'Emmanuel Macron sur ce printemps 1944. Hommage cet après-midi aux victimes de la milice à Vassieux en Vercors. Image inédite pour un président de la République. Pourquoi ce choix? En cette année des 80 ans du débarquement, où l'on apprend par ailleurs que Vladimir Poutine ne sera pas invité aux commémorations. Au menu des informés également, Carlos Tavares et ses 36,5 millions d'euros de rémunération qui font s'étrangler la gauche. Vous n'avez qu'à la changer la loi, dit-il. Chiche répond LFI. Et puis Mayotte, au cœur de la campagne des européennes, avec une opération de police gendarmerie contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Opération baptisée Place Net. On sera en ligne avec Mansour et Kamardine, député LR de Mayotte, alors que le gouvernement confirme son intention de modifier la constitution pour abroger le droit du sol sur ce département le plus pauvre de France. On parle de tout ça avec nos informés qui sont ce soir. Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée à Matignon pour l'agence Reuters. Emilio Mellet, grand porteur politique à l'Humanité. Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, donc, ce maquis du Vercors. On sait à quel point Emmanuel Macron n'est pas avare de déplacements mémoriels, mais c'est la première fois depuis 80 ans qu'un président de la République présidait donc une cérémonie d'hommage à la résistance dans ce village de Vassieux en Vercors, entièrement détruit par la milice de Vichy, ces combattants français aux ordres des Allemands. C'était en 44, avant l'assaut des troupes allemandes. Daniel Huillier fait partie des derniers résistants de ce maquis du Vercors encore en vie. 95 ans, il en avait 16 à l'époque. Heureux, bien sûr, de cette visite présidentielle.
On n'a eu jamais des visites officielles d'un président de la République française. On attendait ça depuis 80 ans. De Gaulle est venu, mais comme ça, et puis un autre aussi, je ne me rappelle plus. On a eu des premiers ministres, mais jamais de président. C'est un juste retour qui honorera les copains qui sont tombés. Ça nous met du baume au cœur que 80 ans, on se rappelle de ce que tous ces gens du Vercors et de France, bien sûr, ont fait pour la libération de notre pays. Il y a eu des drames épouvantables dans tout ça. Et c'est une reconnaissance qui pour moi, est justifiée et qui honore tous ces gens qui se sont sacrifiés pour la liberté de la France.
Les informés, je ne sais pas si vous avez en tête les autres présidents.
C'est Nicolas Sarkozy qui était allé dans la région.
Voilà, pour une visite au départ axée sur l'agriculture. Et François Mitterrand qui était passé pour le Tour de France, en plus de Gaulle, bien sûr, 63. Emmanuel Macron, en tout cas, lui, il tenait époque douloureuse avec ses héros et ses traîtres. Écoutez.
Serviteurs du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français. Et avec eux, cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparable de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France.
Un temps où des Français n'aimaient pas la France. Ça vous inspire quoi ?
Que de symboles. Enfin,
Emilio Mesley.
Enfin, Emmanuel Macron répare cette injustice faite au maquis du Vercors, qui est pourtant resté comme celui dont tout le monde se souvient. Le maquis du Vercors, ces résistants qui ont combattu longuement contre l'occupant nazi et face à des Français aussi, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le symbole qu'Emmanuel Macron met en avant, qui se tient encore sur sa jambe mémorielle, vous le disiez, c'est ce qu'il aime le plus, mais ça mange pas de pain de le rappeler aussi qu'il y avait des Français qui ont lutté contre des Français et voilà.
Et voilà, on n'est pas uniquement dans ces méchants Allemands, quoi. Et c'est là où on est au cœur de toute la complexité de l'histoire, de cette histoire en tout cas
de la libération.
Oui, moi je comprends très bien l'émotion des gens qui ont vécu le maquis du Vercors et qui soient heureux de cet hommage qui leur est rendu par le président de la République. Mais si on raisonne de manière un peu plus générale sur cette succession d'hommages que rend le président de la République, ça pose quand même des questions politiques contemporaines, parce que des Français qui n'aimaient pas la France, on peut revenir à l'infini sur l'histoire de France, mais si on le projetait aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Parce qu'à un certain degré, quand même,
ils projettent
hommages...
là, pour vous, quand, je veux dire, c'est...
Justement, il va pas au bout de la logique, parce
regard,
que si on projetait cette logique-là de qui sont aujourd'hui les Français qui n'aiment pas la France, quelle réponse apporterait Emmanuel Macron ? Ben, je ne sais pas si on peut véritablement répondre à cette question-là. Et pourtant, elle est majeure, parce que bien sûr qu'il faut rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté de la France, qui se sont battus pour des principes de respect de la dignité humaine, pour la République, mais enfin, ça n'empêche pas que nous vivons aujourd'hui, et que Emmanuel Macron, il a des enjeux politiques très forts aujourd'hui, et que la complexité ou la fragilité ou les fractures de la société française, elles existent aussi aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve très étonnant dans cette succession d'hommages qui sont finalement, qui restent un peu en filigrane sans aller au bout de la logique.
Objectivement, est-ce qu'il pouvait aller plus loin là, Olivier Pinault ?
Mais pas forcément dans ce moment-là, mais on voit bien que là, on entend beaucoup le président de la République dans une succession d'hommages, oui. Faute probablement de pouvoir tenir ou d'être capable, peut-être parce qu'il lui manque la force politique pour le faire, de tenir des discours plus sur les enjeux et les défis contemporains.
Sur ces mots-là de cet après-midi, Elisabeth Pinault, vous entendez-vous un message politique à quelques semaines des Européennes ?
J'entends un message de rassemblement du pays, d'un pays fracturé. Évidemment, c'est un exercice qu'il aime beaucoup, Emmanuel Macron. L'histoire de France, rappeler l'histoire de France, rappeler ce qu'elle a été. Évidemment, ça donne des moments très émouvants, comme ce témoignage de cette personne qui a connu cette époque, une époque qui est en train de disparaître avec les derniers témoins. Emmanuel Macron multiplie les hommages, vous l'avez dit, ça va de Jocelyne Finebecker à Hélène Carrère-Dancausse, à Jacques Delors, et à chaque fois, c'est l'occasion d'une leçon d'histoire de France. Et à chaque fois, on ramène à ce qui nous unit, aux leçons de l'histoire. Et Emmanuel Macron a à cœur d'apprendre cette histoire aux Français et d'essayer de rassembler le pays autour de cela, autour de cette histoire, autour de la fierté. C'est un mot qu'il utilise souvent. Enfin, ça va...
le problème, c'est qui sont les fascistes aujourd'hui ? Parce que c'est ça la question. Si on mettons les pieds dans le plat, c'est de ça dont on parle. On parle de gens qui auraient été fascistes ou fascinés. Oui, mais enfin, ceux dont on parle, qui n'aimaient pas la France,
mais
ou en tout cas qui n'aimaient pas la République. Ou les valeurs françaises telles que la République se les imagine. Donc on parle des fascistes en gros, mais qui est le danger fasciste aujourd'hui ? Où est le danger fasciste aujourd'hui ? C'est ça la question, et c'est en ça où finalement tous ces hommages qui finalement renvoient que dans le passé en ignorant le présent, alors que les fractures, on le voit bien qu'il y a des gens qui ont des interprétations très différentes, il y a des gens qui vont vous dire que le danger c'est l'extrême droite, que le Rassemblement National serait un parti qui ne serait pas dans le champ républicain, d'autres qui vont vous dire que ça va être plutôt une partie de la France insoumise, qui est, ou y compris dans l'espèce de complaisance qu'elle peut avoir pour l'antisémitisme, pour le Hamas dans un certain nombre de cas. Donc c'est ça les questions qui se posent aujourd'hui.
Oui,
les Français
enfin,
qui n'aiment pas les Français,
ce genre d'exercice,
aujourd'hui, qui sont-ils ?
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle du Vercors, de 44, de la résistance, de la libération. On est avec Elisabeth Pinault, Emilio Mellet, Elisabeth Pinault de Reuters, Emilio Mellet de l'Humanité, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Jean-Sébastien qui pointait le manque de clarté, j'essaie de résumer, mais du président de la République, non, dans tous ses hommages, dans l'ensemble.
Pas le manque de clarté, son discours était clair.
Bah, vous dites qu'il va pas jusqu'au
l'époque,
bout.
Je vous disais juste que bizarrement, dans cette succession d'hommages que le président de la République, il ne va pas au bout de la logique pour dire véritablement de quoi on parle dans le présent, parce qu'on peut effectivement... Je veux dire, l'histoire, elle est intéressante.
Alors, on va faire réagir...
Elle est intéressante aussi par
Elisabeth
rapport à ce
Elisabeth Pinault
Non, mais pour aller au bout de la... Moi, je vais vous dire, qui sont les Français qui risquent leur vie aujourd'hui à raison de leurs origines ? Qui sont ceux qui les menacent ? Qui vit sous protection policière dans le pays ? Qui sont les Français qui n'aiment pas la France aujourd'hui ? Toutes ces questions-là, eh ben, elles sont très contemporaines. C'est pas juste l'histoire qui est derrière nous et commémorons une page douloureuse qui serait loin de nous. Non, malheureusement, il y a des fractures nouvelles, pas nécessairement sur les mêmes lignes ou pas exactement sur les mêmes lignes que celles qui pouvaient exister à l'époque. Et c'est aussi là-dessus qu'on peut attendre une parole du président de la République, me semble-t-il, dans la mesure où il ne cesse de revenir là-dessus et qu'il parle finalement assez peu du présent dans le reste de ses interventions.
Quand il dit « nous devons à ces femmes et ces hommes d'avoir choisi le bon chemin », voilà, quel est le bon chemin aujourd'hui ? On peut imaginer qu'il désigne les extrêmes, mais en même temps, il amène les Français à réfléchir. Il ne va pas cibler, lors de ce genre de cérémonie, des adversaires politiques directement. Il amène à réfléchir. Je ne pense pas que ce soit non plus des cérémonies qui ne sont que dans le passé. Il veut amener les Français à réfléchir, alors que la guerre est aux portes de l'Europe, et alors que la France est très divisée, avec une montée des extrêmes. Ce message est dans ce contexte-là.
Mais ça ne veut rien dire, une montée des extrêmes. Précisément, c'est ça la question. C'est que ça, c'est très générique.
Ça veut dire une montée des extrêmes. Vous voudriez qu'ils choisissent
l'un extrême en particulier.
Qui sont les gens qui attaquent les Juifs aujourd'hui en France? Mettons les pieds dans le plat. Appelons un chat un chat.
Comment vous répondez à cette question?
Est-ce que ce sont des descendants, pour le coup, de familles politiques nées du péténisme, ou est-ce qu'il y a un nouvel antisémitisme dans le pays? Ça, c'est une question. C'est une question politique. Il me semble qu'elle fait largement partie du débat public.
Les gens qui s'en prennent aux Juifs, ça s'appelle effectivement de l'antisémitisme, mais je ne sais pas comment vous allez au-delà de cette réponse. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse?
Il y a des forces politiques qui montrent une partie de la France, pas toute la France insoumise bien sûr, une partie de la France insoumise a montré une grande complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme, pour dire le moins. On pourrait même dire que certains sont dans une forme d'antisémitisme direct, que ça entretient un climat autour de cette question-là, qu'il y a d'autres, et des tas d'autres questions se posent dans le pays, sur justement parce qu'on s'en prend à la dignité des uns ou des autres, mais sachons regarder la réalité aujourd'hui. Le président de la République,
on simplifie peut-être un tout petit peu là quand même, objectivement, on va pas refaire tout le débat du Proche-Orient, mais...
Je parle pas de tout le débat du Proche-Orient, je parle de questions qui sont très spécifiques à la France, qui a été tué à Bordeaux la semaine dernière, par qui a-t-il été tué? Enfin, ces questions-là sur les fractures françaises et sur le vrai chemin, et que faisons-nous pour protéger la République? Est-ce qu'elle protège tous ses citoyens?
Non, mais on va éviter de faire des amalgames et des généralisations.
Mais ce ne sont pas des amalgames et des généralisations. Bérangère, il y a des gens qui meurent aujourd'hui en France.
Il y a peut-être un cas, et puis vous en êtes à un constat général que ne fait pas le président de la République. Mais je voudrais qu'Émilie Mélé puisse répondre.
Qu'on s'éloigne sur. En l'occurrence, il y a un extrême qui monte, l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui aujourd'hui est à 30% dans les sondages. Et il me semble que le président de la République, même s'il le fait souvent en louvoyant, il l'a ciblé, il l'a fait d'ailleurs dans nos colonnes au moment de la première commémoration de l'année, qui est celle de Missak et Mélanie Manouchian, en justement ciblant le passé du Rassemblement National, en disant que les héritiers des gens qui ont tué les résistants dans le Vercors, ce sont les représentants politiques du Rassemblement National. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est peut-être moins un problème de discours. Attendez, je vais juste finir ma phrase. Le problème d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, sur ce sujet-là, dans ce contexte historique, je ne crois pas que ce soit un problème de discours. Le problème que vous pointez, c'est un problème de stratégie et d'action. Mais sauf que en s'inspirant largement de ces... Lui, il pense que c'est en s'inspirant des politiques prônées par le Rassemblement National qu'on peut aller le siphonner. Mais on en reparlera avec Mayotte. Mais en l'occurrence, on est ici dans une séquence mémorielle, les 80 ans de la libération, et il est a priori dans son rôle que en étant en rendant hommage.
Il n'est pas dans son rôle. Je vous dis juste que force est de constater que le président de la République accumule des hommages dont on ne voit bien quel avenir il décide à la France, ni même quel discours ça tient sur le présent concrètement.
Est-ce que c'est la place de ces hommages?
C'est la place d'une séquence mémorielle dans son ensemble. On voit bien que l'existence politique d'Emmanuel Macron, Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire du président, le théorise justement en disant c'est cette histoire de France qu'il nous faut porter pour la faire vivre dans le présent. Je vous dis que le genre de discours qui sont tenus, en réalité, passe à côté des enjeux du présent.
Le problème d'Emmanuel Macron, en l'occurrence sur l'aspect mémorial, c'est qu'Emmanuel Macron, il est né, le macronisme est né en 2017. Il n'a pas d'histoire politique. Donc en fait, il n'a d'hommage à rendre à personne politiquement. Donc, il fait du braconnage sur les terres des autres. C'est ce qu'il a fait avec Manouchian, c'est ce qu'il a fait avec Josephine Baker. Et c'est comme ça, selon lui aussi, qu'il atteindra sa stature d'homme d'État qui restera. En fait, Emmanuel Macron, c'est quand même un homme de symbole et c'est avant tout pour ça qu'il le fait. Il veut laisser sa trace dans l'histoire.
Mais je pense qu'on laisse sa trace dans l'histoire quand on gère le présent. Pas quand on inaugure des chrysanthèmes.
Je suis d'accord, c'est sur les solutions qu'on sera moins d'accord.
Je pense que ce soit vraiment une inauguration de chrysanthèmes. C'est quand même ce genre d'exercice, ça amène à réfléchir et à rassembler autant que faire se peut le pays.
Mais la preuve que non, parce qu'on n'est même pas capable de tomber d'accord entre nous sur quelles sont les menaces aujourd'hui. Menace aujourd'hui, je vais vous dire franchement, ce n'est pas l'extrême droite. Non pas que l'extrême droite ne soit pas porteuse de menaces en soi, mais encore une fois, qui sont les gens qui vivent sous protection policière en France? Qui sont les gens qui peuvent être ciblés? Même Jean-Luc Mélenchon, quand vous voyez des campagnes qui sont faites par la France insoumise qui visent X ou X journalistes. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est digne et que c'est républicain?
Vous avez aussi des mosquées qui sont attaquées, Jean-Sébastien.
Je vous ai pas dit l'inverse, mais précisément, Bérangère, alors, si vous voulez aller par là, je vais vous dire, oui, la République ne protège pas les musulmans. Parce que oui, il y a une forme de racisme et de paternalisme de la gauche qui fait qu'on a refusé de voir que les premiers soumis à la pression islamiste, ce sont les musulmans.
Le racisme,
parce que ce sont deux
gauche.
Algériens qui ont été attaqués à Bordeaux la semaine dernière. Et la République devrait les protéger aussi en ouvrant les yeux sur où est la menace aujourd'hui, où est la menace qu'on pourrait assimiler la volonté de contrôle social total. Par exemple, ça, ce sont les islamistes aujourd'hui. Parce qu'on on a beaucoup de discours antifascistes. Mais oui, la République se doit de protéger mieux ses citoyens et effectivement aussi les citoyens musulmans.
Mais qu'il y ait une menace islamiste.
Vous pensez que ce genre d'exercice présidentiel devrait être l'occasion d'appeler un chat un chat, de poser ce genre de débat?
Je pousse plus loin
juste pour avancer, est-ce que les commémorations doivent nous éclairer sur le présent, chose, ce qui est, me semble-t-il, ce que fait l'entourage du président de la République? Dans ce cas-là, oui, éclairons le présent.
Il le fera, selon vous, au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, qui vont nous rapprocher à la fois des 80 ans du débarquement et des Européennes.
On a l'impression qu'il en fait... Encore une fois, il est dans son rôle de président de la République. Moi, je ne conteste absolument pas le fait qu'il était légitime de rendre hommage au maquis du Vercors.
Juste pour clore cette séquence, parce que je pense qu'on a bien compris les positions.
Non, mais ce que je veux vous dire par là, Bérangère, regardez, manifestement, Emmanuel Macron et ses conseillers misent beaucoup sur la séquence mémorielle qui arrive avec le 80e anniversaire
du débarquement. Comme ils le font depuis le début.
Pour essayer de remonter dans les sondages. Est-ce que, véritablement, c'est un enjeu politique? Enfin, cette commémoration de l'histoire, c'est son rôle de président de la République, comme s'il était le roi de France, en quelque sorte. C'est sa stature présidentielle non partisane, ces commémorations. Mais il essaye d'en faire quelque chose de partisan.
Si je peux juste revenir vraiment d'un mot, et on va clore cette séquence, mais sur ce fait, parce qu'on est passé très vite sur le Vercors, là, sincèrement. Comment vous expliquez que ce soit la première fois qu'un président de la République s'intéresse à cette période? Est-ce qu'elle est plus complexe, en tout cas à cette libération du Vercors qui a été si douloureuse, avec ses héros et ses traîtres et ses Français qui n'aiment pas la France.
Les présidents de la République ont toujours du mal à dire que des Français ont tué d'autres Français. Donc on a vu Jacques Chirac qui l'a reconnu pour le Veldiv. Ça avait mis énormément de temps. C'est selon moi la même raison.
C'est
compliqué lorsqu'on est chef de l'État. De le dire, parce qu'on sait que dans le débat politique derrière, on a quelques coups à prendre.
Juste un mot, et puis on passe au fil info. Vladimir Poutine qui n'est pas invité aux cérémonies des 80 ans.
C'était pas vraiment une surprise. Vous, moi j'étais au 70e anniversaire, il était là, la reine d'Angleterre était là, voilà le temps passe.
Il n'était pas au 75, mais il était là au 70.
Là c'était aujourd'hui une journée à dimension nationale. En Normandie, ce sera à dimension internationale avec la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe.
Ce qu'on commémore avec le débarquement, c'est la victoire
La Russie est invitée, pas Vladimir Poutine, en fait, c'est ça.
Oui, mais justement, ce qu'on commémore, c'est la victoire contre le nazisme. C'est la victoire
avec le tribut
contre
l'axe
des régimes autoritaires. Ça n'aurait pas beaucoup de sens d'inviter Vladimir Poutine, qui envahit l'Ukraine, comme chacun sait, qui conteste à l'Ukraine le droit d'exister et qu'on peut largement qualifier de personnage autoritaire. Quel a le sens d'inviter un leader autoritaire, ce qu'il était beaucoup moins pour le 70e anniversaire, pour commémorer la victoire sur les régimes autoritaires.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle gros sous à présent avec Elisabeth Pinault, Reuters, Emilio Mélé de l'Humanité, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. 36,5 millions d'euros. Je suis sûre que tous vous vous dites qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec tout ça. C'est la rémunération du directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, validé par les actionnaires aujourd'hui. L'intéressé assume. On va l'écouter, c'était ce matin sur France Bleu Lorraine Nord.
Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecte.
6 millions par mois, pardon.
Alors, on est en train de se dire ici autour de la table que c'est un petit footballeur quand même, 36 millions. Blague à part, évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. LFI a déjà déposé sa proposition de loi. Écoutez, le député de Loire-Atlantique, Mathias Tavel.
Nous disons chiche, nous le prenons au mot. Et nous, députés de la France Insoumise, nous déposons une proposition de loi pour un salaire maximal et pour plafonner les écarts de rémunération dans les entreprises de 1 à 20. Et puisqu'il faut une loi pour empêcher ce genre de comportement, eh bien faisons-la. Inscrivons-la à l'ordre du jour, votons-la. Notre proposition est prête, elle est déposée. Nous pouvons la voter rapidement et elle peut s'appliquer très rapidement si le gouvernement veut bien que nous l'inscrivions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Sinon, nous le ferons quand nous en aurons l'occasion à la France Insoumise, mais c'est un peu plus lent.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Carlos Tavares dit « c'est mon contrat et c'est la preuve que les résultats sont bons ». On pourrait aussi dire il pourrait y avoir une autre lecture peut-être. Je ne sais pas comment... Emilio Mele.
Oui, alors je vais vous surprendre, je suis d'accord avec deux choses qu'a dit Monsieur Tavares. Le premier, c'est quand il dit qu'il a des résultats financiers qui sont bons, c'est vrai. Il a un record de taux de marge qui s'élève à 13%. Il y a plus de 18 milliards d'euros de bénéfices, ça c'est vrai. Mais à quel prix, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on compare, on le compare à Kylian Mbappé ou aux autres footballeurs. Il me semble pas que Kylian Mbappé ait supprimé, j'ai le chiffre devant les yeux, 26 500 postes depuis 2 ans dans le groupe Stellantis à l'échelle du monde. C'est-à-dire que Monsieur Tavares, il prend un SMIC à chaque personne, à chaque poste supprimé dans son groupe. Donc en fait, s'il a cette rémunération, c'est en raison de la casse sociale qu'il met lui-même en œuvre.
Et ça, alors d'abord sur le constat.
C'est un débat récurrent qu'on a entendu avec Carlos Ghosn, qu'on a entendu déjà avec Monsieur Tavares. Emmanuel Macron lui-même avait trouvé ces rémunérations choquantes. Il avait demandé
2022, oui.
une loi au niveau européen qui n'a pas vu le jour. Et évidemment, c'est évidemment la bonne dimension puisque le siège de Stellantis est aux Pays-Bas. Si on fait une loi en France que réclame toute la gauche, ça ne servirait.
L'idée, c'est d'encadrer, rien. Non pas celui oui. de Stellantis.
Alors, évidemment, symboliquement, c'est insupportable pour tous les Français qui ne comprennent pas, en effet, des chiffres aussi énormes et sachant que les inégalités sont toujours en tête des problèmes et des scandales quand on interroge les Français dans n'importe quel sondage. Donc, évidemment, ça fait une piqûre de rappel politique sur les inégalités ressenties par les Français.
Jean-Sébastien Ferjou.
Monsieur Tavares le dit lui-même, ce sont les actionnaires de Stellantis qui ont validé sa rémunération, puisque ça fait plusieurs années maintenant que Stellantis, comme la plupart des grands groupes mondiaux, ont mis en place ce système qu'on appelle « say on pay », c'est-à-dire que ce sont les actionnaires qui valident la rémunération des dirigeants, et ce ne sont plus des choses qui se décident en catimini, avec des conseils d'administration un peu organisés à la main des grands patrons. Donc, il y a une forme de liberté à le faire. Après, est-ce que l'argument qui est souvent avancé par ces grands patrons, c'est qu'ils disent, oui, il y a un marché, de toute façon, si j'étais pas là, je serais ailleurs et je serais payé plus. Ce qui n'est pas toujours si vrai que ça quand on regarde bien. Après, il a des bons résultats qui ne sont pas dus que à la casse sociale, parce que gérer un groupe, notamment un groupe automobile, quand on fait face à la transition énergétique, quand on fait face à des décisions parfois incohérentes de la part des autorités publiques, un jour vous pousse à faire du diesel, le lendemain vous pousse à faire du sans-plomb, et puis le jour d'après veulent interdire le moteur thermique tout en disant « Ah oui, mais peut-être que finalement on va revenir sur l'interdiction du moteur thermique ». Être le dirigeant d'un groupe industriel dans ces conditions-là, c'est compliqué, et tout le monde n'est pas taillé pour le faire. Effectivement, il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres, ça fait partie des injustices de la vie. Après, est-il décent de vouloir autant d'argent
ça
pour soi-même à titre personnel?
Ça fait partie des injustices de la vie avec des échelles pareilles. Enfin, honnêtement, même avec un patron dans son secteur qui serait irréprochable, qui serait impeccable. 36 millions.
J'allais vous dire, je suis attaché à la liberté dans la mesure où, encore une fois, il s'agit d'actionnaires. Quoi qu'il en soit,
il ne s'agit pas de les mettre au SMIC.
Le siège de Stellantis est aux Pays-Bas. Après, à titre personnel, je trouve qu'il y a une forme d'indécence à effectivement courir après des rémunérations aussi élevées. Il n'est pas le fondateur de Stellantis. Moi, je distingue totalement des gens comme Bernard Arnault, par exemple, qui a créé son groupe, qui est actionnaire du groupe. Ce sont les dividendes qu'il reçoit parce qu'il est lui-même créateur de richesses. Là, il est juste salarié de ce groupe-là. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence à aller vers ce niveau-là de rémunération dans un moment où, et notamment les gens qui travaillent dans l'industrie, sont confrontés à beaucoup de difficultés.
Après la pause, on se demandera techniquement ce qui existe comme solution. Emilio Mele, juste, vous voulez rebondir là-dessus?
Non, mais j'ai pas envie de pleurer. Monsieur Ferjou nous dit que c'est compliqué d'être à la tête d'un groupe comme Stellantis aujourd'hui. J'ai pas envie de pleurer sur le sort de Monsieur Tavares. Il a 36 millions. Moi, j'ai plus envie de pleurer sur le sort des salariés en Italie.
Sur son sort,
en Italie, pardon, je termine ma phrase, Monsieur Ferjou.
Qui a mené un groupe industriel.
Les 3000 salariés en Italie dont les emplois sont menacés, ou les 400 aux États-Unis qui sont aussi menacés par.
Vous savez ce qui les menace? Bien souvent, ce qui les menace, c'est d'avoir un mauvais patron, celui qui n'est pas capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ça qui menace les emplois.
26 000 emplois supprimés en 2 ans. Voilà.
20h30, on poursuit après le point sur l'info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Monte.
Elisabeth Pinault est là, correspondante à l'Élysée et Matignon pour Reuters. Emilio Mele, grand reporter politique à l'Humanité. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. On est sur ces 36,5 millions d'euros. On était même en train de se demander, après impôt, ce qui va rester. Alors c'est compliqué.
C'est une fiscalité compliquée, c'est pas du salaire pour
c'est
l'essentiel.
Pas du, oui, c'est une rémunération.
Ce sont des actions, il est rémunéré avec des actions de Renault, donc la fiscalité sera le jour où.
Ne vous inquiétez pas pour lui, Bérangère.
Non, mais c'est histoire d'informer ceux
la
qui nous écoutent.
La CGT Stellantis a fait le calcul, c'est 100 000 euros par jour.
Non.
Net. Ah, je sais pas,
Mais ce qui n'a pas de sens, c'est juste une division, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Mais...
Oh, ça donne une échelle, quand
même. Ce qui permet de regarder un petit peu à quoi.
Okay, vous voyez bien, voilà. Bérangère, que si vous aviez des actions, moi, c'est pas de l'argent que... Non, mais moi non plus. Mais si vous aviez des actions... Non, mais je vous dis pas qu'il s'agit pas du tout de pleurer sur le sort de monsieur Tavares. C'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste, ça n'est pas du salaire.
Techniquement, la proposition d'Alefi, on est bien d'accord que ça n'impacterait pas directement le patron de Stellantis, qui est basé aux Pays-Bas. Mais néanmoins, c'est intéressant de regarder. Limité à 20, les écarts entre la plus grande rémunération et le plus petit salaire au sein d'une entreprise.
Donc la plupart des sièges d'entreprise...
Ça paraît
déjà,
être une échelle intéressante.
Il n'y aurait plus beaucoup de sièges d'entreprise qui seraient en France. Et donc, incidemment, si on raisonne en termes d'intérêt national, une fois que votre siège est à l'étranger, vous avez plutôt tendance à supprimer des emplois dans le pays qui n'est pas celui où vous avez votre siège. Parce que là où vous avez votre siège, vous êtes plus sensible notamment à la pression politique. Donc,
et social.
En quelque sorte, le résultat de la proposition de la France insoumise, j'en comprends l'inspiration, je conteste pas le fait de vouloir éviter des inégalités qui, à un certain degré, sont indécentes. Mais le résultat concret, c'est que vraisemblablement, ça se ferait au détriment des salariés français.
Dans la bonne dimension, c'est la dimension européenne. Mais il faut l'unanimité des 27 et ça semble, pour l'instant, illusoire.
Ça avait été initié, vous vous rappeliez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron le souhaitait. Quelqu'un s'est battu pour ça ? Emilio Mele ?
Mais ça n'est pas possible dans un monde où on a libéralisé... Il faudrait recréer des
frontières. Même s'imaginer que si on fait des lois en Europe, les groupes trouveront un autre endroit dans le monde où s'installer.
Mais donc, en fait, à la fin, tout ça justifie l'inaction fiscale. C'est le même argument qu'on nous donnait lorsque François Hollande proposait sa fameuse taxe à 75%, cette fois sur les revenus. Mais... il se trouve que...
Non mais c'est surtout prendre le problème à l'envers.
Non mais la taxation mondiale qui a été mise en place...
Non mais Bérangère, c'est surtout prendre le problème. Le sujet des inégalités, c'est la rémunération de ceux qui gagnent le moins. C'est pas la rémunération de celui qui gagne le plus.
Mais parce
le sujet
que
des inégalités,
okay, on peut le prendre
comment
dans
créer
ça.
Un contexte. En tout cas, c'est la vision que j'ai.
On peut le prendre de
comment
ce côté-là.
Comment créer un
sujet.
Contexte qui fasse que les travailleurs français vont être le mieux rémunérés possible parce qu'ils vont être productifs, qu'ils vont être compétitifs, que on, par exemple, à niveau de réglementation égal, vous n'aurez pas d'industrie automobile demain en Europe. Vous n'en aurez plus.
C'est pas semblant.
Les Chinois sont en train de nous dépasser. Donc le sujet, c'est comment fait-on pour que les gens qui sont salariés aient la meilleure rémunération possible parce qu'on crée le plus de richesse possible. Dans le pays.
En prenant
quand vous avez des gens qui sont décroissants, quand vous avez des gens qui justement imposent une fiscalité sur les entreprises, sur la production, les impôts de production délirantes, ben de facto, ça pèse sur la rémunération.
Non, c'est la question de la redistribution et ça, bon, les législateurs peuvent quand même s'en emparer. On peut quand même en débattre.
En France, tous les pays de l'OCDE, on est celui où la redistribution.
On peut quand même en reparler. C'est le rôle du Parlement de remettre ça sur la table. En effet, pour qu'il y ait au moins une pression morale et peut-être que les choses évoluent dans le temps. Voilà, on peut quand même en parler. On peut dire que c'est impossible parce qu'on est dans un monde complètement mondialisé qu'on peut absolument échapper à ça.
Impossible. C'est de mieux rémunérer les moins bien rémunérés. C'est ça l'enjeu.
Mais comment
l'enjeu,
mais
c'est que le riche soit moins riche, c'est que le pauvre soit moins pauvre.
Ah, mais pour que le pauvre soit moins pauvre, il faut que le riche soit moins riche.
Non, ça c'est une vision. Vous avez un gâteau qui grandit jamais. Mais à ce compte-là, avec votre raisonnement, on sera en 1789, on sera en train de se partager les terres de l'aristocratie. Et puis rien ne se serait passé depuis.
Depuis 1789, le gâteau a effectivement beaucoup grossi.
Bah oui. Donc l'enjeu, c'est de continuer à le faire grossir.
Et certains se sont beaucoup plus engrossés que d'autres. En l'occurrence, il y a un problème de répartition entre le travail et le capital. C'est basique. Depuis les années 80, le capital a continué à s'enrichir à mesure que
quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, France est de tous les pays celui où la rémunération du travail est la plus équilibrée par rapport à celle du capital.
Ce sont les chiffres de l'OCDE.
Ben oui, mais enfin bref, c'est la réalité des chiffres. Après, qu'on puisse en avoir une perception différente, c'est autre chose, mais enfin c'est la réalité des chiffres de l'OCDE.
Quand Fabien Roussel, on va peut-être voir son tweet aujourd'hui, dit lui, en 10 ans, le patron de Stellantis a vu sa rémunération multipliée par 10. Quand je propose d'indexer les salaires sur l'inflation, on me dit que c'est trop demandé. Réponse.
Mais moi, je vous dis, oui, je trouve...
Non, mais je veux dire, dans les pistes techniques...
Je pense qu'il y a une responsabilité des entreprises, une responsabilité morale, que, effectivement, le capitalisme, c'est aussi le fait que de vivre... Si vous relisez Adam Smith, hein, si vous lisez des auteurs libéraux classiques, ils envisageaient le fait que le travailleur et celui qui détenait le capital avaient quand même des intérêts communs et qu'il fallait que ça produise un système socialement soutenable. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité politique et morale des grands patrons d'entreprise pour précisément faire en sorte que nous restions dans un système où qui reste qui soit soutenable politiquement. Manifestement, l'appréciation de Carlos Tavares, c'est que peu importe son niveau de salaire, c'est pas ça qui va changer l'équilibre politique en France. C'est son appréciation, peut-être se trompe-t-il.
Il y a des disparités entre tous ces grands patrons, y compris au sein de du secteur automobile d'ailleurs. Comment on explique qu'un Carlos Tavares soit à 36 et que d'autres
soient
autour de 10 millions ?
Parce qu'il y a plusieurs années, c'était PSA, Citroën, Fiat. Il y a plusieurs années, c'était un groupe qui était en très grande difficulté. Groupe qui a été restructuré, qui en l'état gagne de l'argent, vous y faisiez référence tout à l'heure. Si on se projette dans le temps, moi je pense que c'est un groupe qui est bientôt mort, en réalité, ce que les anglo-saxons appellent les legacy assets. Parce que l'interdiction du moteur thermique, parce que l'irruption de l'industrie automobile chinoise, parce que le passage à l'électrique fait que vraisemblablement les constructeurs automobiles européens ne survivront pas si on se projette à 30 ans ou à 40 ans. Donc ils vivent sur la queue de comète. Carlos Tavares a réussi à restructurer. Si vous regardez la capitalisation boursière de Stellantis par rapport à celle de Tesla, mais elle est ridicule. Stellantis par rapport à Tesla, par exemple, c'est un petit pousset absolu. Et ça montre bien, alors après, peut-être que les gens qui investissent dans ces sociétés-là se trompent-ils dans leur appréciation de l'avenir, mais enfin, ça montre bien que les gens qui investissent leur argent, ils investissent là où pensent qu'est l'avenir. Ben, ils ne pensent pas que l'avenir, c'est ni Stellantis, ni Renault, ni aucun des constructeurs automobiles européens. Ni même d'ailleurs les constructeurs automobiles allemands type Mercedes ou BMW.
On clôt sur ce sujet. On va accueillir, qui est en ligne depuis assez loin, depuis Mayotte, Mansour Kamardine, pour notre sujet prochain. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Député LR de Mayotte, merci d'être en direct avec nous. Avec le décalage, ça doit faire 21h40 chez vous, c'est ça?
Oui, il y a une heure de décalage. En hiver, on est à 2h, donc c'est pas très loin finalement. Quand on va comme ça en longitudinale, puis mais comme on descend en biais, ça prend 10 heures d'avion.
Alors restez avec nous.
En réalité, on est au maximum à 2 heures, sinon à 1 heure. Maintenant, c'est 1 heure et c'est agréable.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Emilio Mele est là pour l'Humanité, Elisabeth Pinault pour Reuters, Jean-Sébastien Ferjou pour Atlético et le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine, pour évoquer donc cette opération Mayotte Place Nette. C'est la nouvelle opération lancée ce matin par le gouvernement qui devrait durer 3 mois. L'idée, c'est d'essayer de faire mieux que l'année dernière avec l'opération Wambushu contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Avec donc des forces de l'ordre déployées, les premières interpellations ce matin, c'est Marie Guévenoux, la ministre délégué chargé des Outre-mer, qui était l'invité des 4 vérités sur France 2.
Les objectifs, au fond, sont les mêmes, c'est-à-dire lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre les chefs de bande, lutte contre l'habitat insalubre, mais on a tiré des enseignements très précis de l'opération de l'année dernière et donc on arrive à cibler beaucoup plus précisément. Quand je vous disais que on vise 60 chefs de bande, je pense que d'abord ce sera un minimum, mais on a surtout fait en sorte d'avoir une espèce de fiche d'identité de chacun de ces profils. C'est-à-dire que les gendarmes et les policiers, quand ils vont intervenir sur place ce matin et dans les 11 semaines qui viennent, ils ont vraiment des fiches avec des individus ciblés qu'ils recherchent en particulier.
Voilà. Alors, Mansour Kamardine, comme beaucoup d'élus de Mayotte, vous souhaitiez, je crois, une nouvelle opération. Est-ce qu'on peut prendre le moment, juste avant de faire un bilan? Quel bilan vous faites-vous de la première, Wambushu, de l'an dernier? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui n'a pas marché, c'est que un certain nombre de magistrats, d'associations, d'avocats se sont dressés sur la route des opérations pour uniquement la faire échouer. Je crois cette fois-ci, l'État a pris à tirer les conséquences, le retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé la première fois pour améliorer. J'imagine également qu'à la suite de cette opération, il y aura aussi un retour d'expérience pour améliorer encore davantage. Parce que il va sans dire que cette opération à elle toute seule ne suffira pas. D'abord, il n'y a pas que des opérations de décasage, mais il y a tout un ensemble d'actions, les actions prises individuellement, ne suffiront pas parce que le mal est tellement profond. On a 30 000 personnes qui vivent dans ces taudis et dans des quartiers où effectivement l'insécurité est trop prégnante.
Là, donc, il est prévu, doute, les objectifs, c'est d'en détruire... L'objectif, c'est d'en... Pardon, hein, je vous interromps. L'objectif, c'est d'en détruire 1300 de ces... ce qu'on appelle ce que vous appelez les bangas, les cases, les bidonvilles. Soit deux fois plus que ce qu'a permis Wambushu. Arrêter 60 individus particulièrement recherchés. Tout ça, ça vous paraît trop faible comme ambition?
Écoutez, soit on fait, soit on ne fait pas. Il n'y en aura jamais suffisamment, puisque je vous ai dit que le mal est tellement profond qu'il faudra probablement encore 4, 5, 10 opérations en Mouchou ou opérations nettes. Donc, mais il faut commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc il faut commencer. Ça se commence, et donc moi je suis heureux effectivement que ça se fasse. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train d'harceler le gouvernement pour le faire. Je suis heureux que Gérald Darmanin, puis... Marie Guévenoux et ont pris la mesure, sous l'autorité, j'imagine, du chef de l'État, ont pris la mesure de la situation, car ce qui se passe à Mayotte, personne sur le territoire national n'est en mesure de l'accepter. Donc on ne peut pas nous faire accepter ce qu'on refuse soi-même de vivre sur les autres parties du territoire national.
Vous avez le sentiment qu'une grande partie de la classe politique ici, en métropole, je vais dire, à Paris, ne comprend pas, ne mesure pas, en tout cas ceux qui ne sont pas allés sur place ne peuvent pas comprendre?
Ce n'est pas un sentiment, c'est une certitude. En réalité, on importe à Mayotte ou on exporte de Paris les contingences politiciennes qu'on rencontre dans la politique nationale ici. Donc, on est complètement déconnecté des réalités. Ici, nous avons des gamins qui ne peuvent pas aller à l'école quand il y a présence des gendarmes devant les bâtiments. On a des gamins qui sont tous les jours caillassés, des forces de l'ordre qui sont caillassés, des maisons brûlées, des voitures brûlées. On est dans une espèce d'insurrection dans laquelle les honnêtes gens sont emprisonnés. Mayotte, c'est une prison à ciel ouvert et les délinquants ont pris la liberté de sorte qu'on ne peut pas sortir à partir de 19h, 19h30. Il est impossible de quitter chez moi pour aller à un restaurant avec ma femme ou avec des amis. C'est sur le lot quotidien de ce que nous vivons. Donc oui, j'aurais bien aimé que tous ces gens-là qui ont la main haut sur le cœur en disant « Oh les pauvres », qu'ils viennent voir et qu'ils nous disent s'ils sont capables d'accepter que ce qui se passe ici se passe chez eux. Je suis aussi, je leur propose également, nous avons 10 000 MNA ici, Mayotte est le territoire le plus pauvre, nous n'avons pas la capacité de les prendre. Nous sommes tout à fait d'accord. Tout comme regarder les débats qu'il y a eu maintenant avec l'idée de mettre fin au titre de séjour territorialisé. Les mêmes qui disent qu'il faut les accepter vous disent mais qu'ils ne viennent pas à métropole, dans l'Hexagone. Alors moi, je leur propose de leur envoyer les 120 000 personnes qui ont un titre de séjour ici, qui ne veulent pas, qui veulent pas rentrer chez eux, de les prendre. Comme ça, ça permettra à Mayotte de respirer un petit peu parce que c'est qui cause finalement toutes ces situations de pression, de violence, c'est effectivement le fait qu'on a agglutiné ici plusieurs populations. Mayotte a été, il y a 30 ans, elle comptait 68 000 habitants, aujourd'hui elle fait 310 000. En 2050, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, elle comptera 740 000. Qui le supporterait sur le territoire national? Qui?
Je voudrais ici qu'autour de la table, on fasse tourner la parole. Elisabeth Pinault.
C'est un témoignage très important.
Sur le décalage notamment.
Alors le décalage, en même temps, les personnalités politiques françaises y vont. Marine Tondelier, l'écologiste, y sera demain. Marine Le Pen qui a
jours.
Été en tête au premier et au deuxième tour à la dernière présidentielle. Et je crois même a fait des très bons scores également à la présidentielle précédente. Il sera le week-end prochain. On va voir ce qu'elle propose. Emmanuel Macron y est allé. Gérald Darmanin également. Marie Guévenoux y est allée trois fois depuis janvier, depuis sa nomination comme ministre des Outre-mer. D'ailleurs, c'est un peu le moment politique pour elle. Je pense que c'est quelqu'un de très politique, Marie Guévenoux. Elle arrive de la droite. Elle a voulu ce poste de ministre des Outre-mer. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal lui donnent la parole aujourd'hui. C'est l'occasion pour elle d'exister et de commencer à répondre, parce que ça ne peut être qu'un début de réponse, monsieur l'a bien expliqué, à des problèmes énormes et très symboliques à Mayotte.
Que penser de cette opération PlaceNet? On est parti pour, ils sont partis pour 3 mois. Le Wambushu a été quand même très très loin des objectifs, qui étaient eux-mêmes pas suffisamment ambitieux, si on écoute le Mansour Kamardine. Émilie Mellet.
Moi, je lis le fait que ce soit Marie Guévenoux qui s'occupe de ce sujet comme le risque d'avoir un deuxième fiasco que Gérald Darmanin n'est pas prêt à assumer. Parce qu'on a vu, donc l'opération Wambushu a été un échec monumental. Il y a quasiment, il y a eu très peu de destruction sur les propres chiffres qui étaient fixés, hein, de destruction de bidonville.
Mais c'est quoi? C'est un manque de moyens, c'est un manque de volonté.
En fait, il faut pas avoir une vision angélique sur une position quand même qui est sur une situation qui est très très complexe et qui est aussi un héritage historique. En réalité, une réponse sécuritaire ne peut pas suffire. Le problème de la réponse sécuritaire, c'est qu'elle omet toute la question sociale. Et monsieur le député l'a dit, c'est le département le plus pauvre de France. Donc vous aurez beau faire 10 opérations PlaceNet, repousser la misère en dehors des frontières, la misère, elle sera toujours là. Il y a un problème d'investissement dans les services publics, notamment l'école, les hôpitaux. Et on l'a vu avec la crise de l'eau qui frappe le pays depuis maintenant des années, avec des coupures d'eau régulières tous les 3 jours, tous les 2 jours. Et en réalité, c'est un problème qui est bien plus large que la seule question de l'immigration.
De contrôle des flux migratoires. Si en France, on était sur les territoires métropolitains, il y avait autant d'étrangers qu'il y en a à Mayotte, il y aurait 35 millions d'étrangers qui vivraient en France. C'est quand même ça la réalité. Donc il y a incontestablement un sujet, il y a un sujet social sur l'île, mais enfin de toute façon, on peut injecter autant d'argent qu'on veut, c'est dans un puits sans fond, puisque les flux migratoires sont absolument majeurs à Mayotte et que d'une certaine manière, ça continue à attirer la population, soit des gens qui viennent d'Afrique, soit des gens qui viennent du reste de l'archipel des Comores. Mais moi, je trouve qu'il y a d'étranges attitudes de la part d'un certain nombre de responsables politiques français qui semblent traiter les Français de Mayotte comme des citoyens de seconde zone. C'est comme si eux n'avaient pas le droit d'être protégés par la République au nom de principes, au nom de symboles. Alors, parce que justement, on se préoccupe de la question sociale. Mais enfin, les Français de Mayotte, monsieur Kamardine l'expliquait très bien, ils ont le droit, comme n'importe quel autre Français ailleurs sur le territoire de la République, Mayotte est un département, de vivre sans risquer de se faire égorger en sortant de chez eux, de vivre en pouvant conserver quand même l'identité de leur île, de vivre en maîtrisant un minimum leur destin, ben non.
Tous les Français de Mayotte, je veux dire tous les Français d'origine comorienne qui sont très nombreux, notamment
qui ont la nationalité française. Ce sont des citoyens de la République. Pourquoi les traitons-nous de facto comme des citoyens de seconde zone en ne les protégeant pas?
Quelle est la part
ça vaut pour les services publics?
Quelle est la part de nationalité française?
Le sujet, c'est qu'on peut investir autant qu'on veut dans les services publics. Si vous avez toujours plus de gens qui arrivent sur un hôpital et que finalement votre population elle est faite très largement de clandestins, vous n'arriverez jamais à boucher le trou.
C'est un héritage historique du référendum de 1976 où les Mahorais ont décidé de rester dans la République. Oui. Et donc c'est un même peuple, les Comores. Donc c'est
c'est quand même très paradoxal, cette gauche qui nous explique quand même que renoncer au droit du sol, ce serait anti-républicain, nous explique quand même que les Mahorais, faut choisir son camp, hein. C'est soit la République, c'est un contrat social, et les Mahorais ont décidé d'être des citoyens français précisément en votant pour rester français, ou alors vous nous expliquez que leurs origines identitaires, ethniques, ou le fait que ça fasse géographiquement partie des Comores, fait d'eux des citoyens finalement qui relèvent des Comores. Parce que moi j'ai entendu aussi une partie de la gauche nous expliquer qu'en réalité Mayotte ne devrait pas être française.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle de cette opération Mayotte PlaceNet et des enjeux pour ce territoire, le 101e département français. Elisabeth Pinault est là pour Reuters, Emilio Mellet pour L'Humanité. Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico et le député de Mayotte, Mansour Kamardine. Alors, le gouvernement a confirmé qu'il souhaitait modifier la Constitution pour abroger le droit du sol. Est-ce que, dans quelle mesure, d'abord, ça pose une question, changer la Constitution, ça va pas se faire comme ça, mais en supposant, et on parlera de la Constitution après, en supposant que ce soit faisable, Mansour Kamardine, est-ce que c'est pour vous la solution et à quelle échéance ça règle les problèmes, d'après vous?
Vous permettez que je réagisse d'abord d'un mot sur la question du référendum et du fait qu'on était le même peuple avec les Comoriens.
Alors allons-y.
Je crois que la France a comme voisin l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Est-ce que ça représente le même peuple? Et là, ce n'est pas des îles. Je voudrais juste rectifier ça parce que souvent, on nous le sert avec une connotation un peu raciale. Mayotte, il n'y a jamais eu de peuple comorien. En 1841, nous avons cédé Mayotte à la France parce que nous ne voulions pas être colonisés par les Comoriens. Et c'est la même histoire que s'est reproduite en 1975. Donc, on nous reproche d'avoir refusé l'indépendance, d'aller avec les Comores. Eh bien, nous sommes fiers d'être Français. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que ça suffira? D'abord, moi, je suis totalement attaché, très profondément attaché à l'idée de modifier la Constitution, enfin, en tout cas, de supprimer le droit du sol, quel que soit le vecteur juridique qui peut être utilisé, parce qu'effectivement, nous assistons à un véritable détournement de nos règles de droit, notamment en matière d'accès à la nationalité. Donc, il faut, et c'est ce qui fait en grande majorité, les gens qui viennent.
On va préciser que le droit du sol est déjà limité depuis 2018 à Mayotte. Aujourd'hui, il faut prouver qu'un de ses parents était en situation régulière au moment de la naissance. Désormais, il faudrait être issu de parents français pour être français. C'est bien ça?
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça a produit quelques effets, mais on assiste à des détournements. Maintenant, une femme qui arrive ici, qui accouche, le lendemain, il trouve quelqu'un, peut-être même avant de partir d'Anjouan, il trouve quelqu'un qui accepte de reconnaître quelqu'un qui est soit en situation régulière, soit qui est français, de reconnaître son enfant, donc des reconnaissances frauduleuses à l'échelle industrielle. Donc il faut arriver à régler tout ça. La seule solution, la suppression du droit du sol ne suffira pas, mais c'est un des éléments de la solution. Il faut sans doute avoir une maîtrise de nos frontières. Il faut inviter les gens à déposer leur demande de titre de séjour depuis les pays étrangers, dire que tous viendront irrégulièrement à Mayotte et ne se verront jamais régularisés. Donc, il faut sortir du concombre qu'on a utilisé jusqu'ici pour avoir des mesures totalement dérogatoires à la situation parce que nous avons une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Pour une fois et pour et juste un peu de plus, je rappelle simplement à ceux qui ne le savent pas qu'aujourd'hui, dans nos écoles, 80% de nos enfants dans les écoles sont des enfants de Comoriens, des enfants étrangers. Et qu'aujourd'hui, la population française à Mayotte représente un tiers de Français, un tiers de réguliers, un tiers d'irréguliers, provenant tous du même pays, les Comores et particulièrement d'Anjouan. Nous assistons à une véritable invasion migratoire parce qu'il y a aussi, du côté des autorités comoriennes, une volonté de s'approprier par la démographie, de contester la souveraineté française. Et bien qu'il faut que nous nous mobilisions, parce qu'il est vrai, un de vos journalistes a expliqué, ça ne se ferait pas, personne ne l'accepterait en territoire hexagonal.
Merci beaucoup Mansour Kamardine, député de Mayotte. Juste pour conclure ici, un mot sur les enjeux. Cette réforme de la Constitution, on en parle à chaque fois et elle est...
En tout cas, ça amène débat. C'est bien qu'il y ait un débat au Parlement sur tous ces sujets parce que la démonstration est quand même assez claire qu'il y a quand même beaucoup de choses à discuter. Alors, le gouvernement veut aller vite avec un texte qui arriverait fin mai. Et puis, on rappelle, il faut un congrès pour changer la Constitution, une majorité des 3 cinquièmes qui sera très difficile à obtenir parce que la gauche et même une partie de la majorité, Sacha Houlier notamment, a dit que ce serait faire le jeu du Rassemblement National, de l'extrême droite, et on retrouve des arguments qui ont été utilisés devant la loi de l'immigration.
Première.
Voilà, un débat qui aussi vif que...
Non mais je trouve ça très ironique, les gens qui disent c'est faire le jeu du Rassemblement National, quand c'est précisément le fait de ne rien faire qui fait que Marine Le Pen est, on le disait tout à l'heure, en tête des résultats électoraux à Mayotte. Peut-être faudrait-il prendre la question à l'envers. C'est précisément quand on ne sait pas gérer, protéger des citoyens
français fait monter le RN
contre un certain nombre d'enjeux sécuritaires, migratoires, etc., que ça fait le jeu du Rassemblement National.
Vraiment 15 secondes, Emilio Mélé vous répond.
C'est très court, quand on propose deux choix, ne rien faire ou prendre le programme du Rassemblement National, ça me paraît limiter les options. Il y a tout un tas de choses à faire, notamment la fin des séjours territorialisés demandés qui est le fait que les étrangers présents à Mayotte ne peuvent pas aller ailleurs sur les territoires français, alors que c'est un sujet de solidarité nationale aussi.
Puisque vous avez la main, un œil sur la une de l'Humanité demain matin.
Ce sera les Jeux Olympiques, comment la France espère briller, avec notamment un entretien de Claude Onesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball.
On est à J-100 demain, c'est une journée spéciale également d'ailleurs sur France Info. Que propose Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou?
Mais on se pose des questions avec un certain nombre de spécialistes. Y a-t-il un mimétisme dans les attaques au couteau? Parce qu'on a vu que ça se multipliait en France comme ailleurs dans le monde. Et donc, quels sont les mécanismes qui font que ce genre d'actes se multiplient?
Merci à tous les trois. Merci Elisabeth Pinault également. Demain, les informés, c'est à 9h. Jean-Rémy Baudot et Renaud Dely. Et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.